à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Moi, je lis et avec vous, je partage. Et pour le faire le mieux que je peux, je chronique les ouvrages. Alors, qu'importe le flacon pourvu qu'on veut des ivresses, j'ai envie de vous dire que ce soit des romans, des bandes dessinées, des romans jeunesse, des albums jeunesse. Je m'en fous, tant que j'aime, je partage avec vous. Donc je chronique, j'interviewe les auteurs quand c'est possible. Et puis, je vous propose une playlist par ouvrage évoqué, histoire de vous restituer des univers sans les mots, d'une autre manière, comme si des émotions résonnaient avec d'autres émotions et que ça puisse donner envie à quelques-uns ou à quelques-uns en plus d'aller ouvrir les bouquins en question. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, je suis très très fière de vous annoncer déjà que nous allons recevoir Madame Chloé Delhomme pour ce qui est quelque part son premier roman, je m'en expliquerai après. Ça s'appelle Les Sorcières de la République, c'est sorti pour cette rentrée littéraire là à la fin de l'été, au Seuil, dans la collection Fiction ici. Et puis avant de rentrer complètement dans ce roman, avant de la recevoir aussi en interview, je vais lui adresser à elle un immense clin d'œil. Et puis aux jeunes gens que nous avons été, ce clin d'œil, il est adressé aussi. Voilà, oui, sans, j'assume, c'était bien les Spice Girls. Oui, messieurs, dames, vous êtes bien pourtant dans Rock and Page et vous venez bel et bien d'entendre les Spice Girls pour un énorme clin d'œil à Chloé Delhomme, qui signe en réalité son premier roman, je vous le disais, même si elle a énormément de titres à son actif. Et ce roman-là, il s'appelle Les Sorcières de la République et il vient de sortir au Seuil. Alors, je vous la fais courte, car on va la recevoir, Madame Delhomme, pour son chef-d'œuvre, et c'est quand même elle qui est le mieux placée pour en parler. Nous sommes en 2062, en France. au feu Stade de France, c'est-à-dire ce qui est pour nous le Stade de France, mais qui ne l'est plus en 2062. Nous assistons, les yeux écarquillés, au procès de la Sibylle. Alors je vous explique, en 2012, comme la fin du monde n'a pas eu lieu, le parti du cercle, alors le parti du cercle est composé par les déesses grecques, descendues de l'Olympe. Alors elles instaurent un matriarcat en place, alors qu'une femme en 2012 est présidente de la République en France et elle s'appelle Élisabeth Ambroise. Sauf que, 3 ans plus tard, la population vote pour le Grand Blanc, une amnésie collective de 3 années, ni plus ni moins, proposée par ces déesses grecques formées en partie du cercle. Donc maintenant, nous revenons en 2062, au feu Stade de France, et la Sibylle, qui fait partie du parti du cercle, oui, elle est jugée pour cet acte d'amnésie choisi par référendum par le peuple. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que c'est une amnésie totale, c'est-à-dire qu'il y a des générations de gens qui vont naître et qui ont un trou dans leur histoire, en fait. Le président de la République est alors Barnabé Pouguel Castelin, un jeune homme adoré par la population. Et Delhomme construit son roman sur des chapitres qui, à eux tous, constituent les 5 jours et 5 nuits du procès. Les sous-chapitres peuvent être les commentaires de la journaliste télé, qui est la journaliste type BFM, qui travaille donc 24 heures sur 24. Les autres sous-parties sont les interventions de la Sibylle, qui retrace le cheminement de l'histoire de son parti et qui justifie la proposition du référendum pour ou contre cette amnésie qui s'appelle le Grand Blanc. Et d'autres encore sous-parties sont des messages envoyés par l'État pour nettoyer nos cerveaux. Ainsi, ces sous-chapitres peuvent s'intituler hashtag live, hashtag load, hashtag warning. Et moi, cette Sibylle magnifique qui doit s'expliquer, s'excuser d'être une femme et de croire que notre salut peut passer par ça, la féminité et la sororité, je vous la dirai bien comme ça en fait.
But now I see you.
Qui mieux que Cat Power pour faire résonner la sibylle de Chloé Delhomme ? Avant de la recevoir, je voulais vous dire, nom d'une pipe en bois, que sur ce coup, Delhomme m'a décoiffé. Elle se sert de tout, absolument de tout ce qui est notre quotidien, pour poser, et l'histoire aussi, pour poser son rôle à elle de messagère, une sorte d'écrivain messagère pour le futur, tout y passe. Notre façon de consommer l'éducation, l'éducation aussi, les médias, Internet, le journalisme, la politique, les religions, bref. Elle nous fait éclater de rire à toutes les pages en mélangeant sous plein de formes différentes le passé, le présent, le futur de notre collectif. Elle se sert des codes du roman. Elle dynamite le système de pensée unique qui nous est imposé depuis des siècles, à savoir la mythologie et tout ce qui s'ensuit, la place de la femme dans la mythologie. Je pense, alors pour éclater de rire, vous penserez à moi quand vous lirez les échanges par mail entre Artémis et Jésus-Christ. Elle signe et elle, là, Chloé Delhomme, un roman qui hurle que seule la sororité nous sauvera. Et le tout servi par un roman survitaminé, drôle et pertinent, super bien construit. Et cette écriture, ce rythme et ce récit, moi, je vous le dirais bien comme ça en fait.
Yeah.
C'était Arcade Fire, oui, carrément. Quand on aime, on compte pas. Pour vous dire toute la force de l'écriture de Chloé Delhomme dans Les Sorcières de la République. Bon, le mieux étant quand même que je parte à sa rencontre, non ?
Chloé Delhomme, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page.
Bonjour et merci à vous.
Alors si j'osais seulement, Les Sorcières de la République, c'est votre premier roman.
Ouais, en fait, c'est mon premier roman qui ne soit pas avec moi dedans, donc c'est mon premier roman.
C'est ça. Et vous avez accepté, du coup, de vous servir des codes de la fiction.
Ouais, mais pour les retourner mieux. Mais je les ai vraiment tous utilisés, tous.
Et comment il est né, ce roman-là ?
Il est né parce que je crois que j'avais envie de parler et de magie politique et aussi de l'invisibilité des femmes. Parce que ça commençait à vraiment bien faire, vu qu'on n'a même plus un ministère que pour la femme, c'est la femme et la famille, alors qu'on est en 2016. Donc du coup, je me suis dit que ça serait pas mal d'imaginer Hera, au début juste la déesse de toutes les femmes qui reviendrait. Puis du coup, j'ai inventé une histoire où avec ses copines déesses, elles reviennent, elles voient l'état du monde en 2012, puisque l'apocalypse n'a pas eu lieu, elles en profitent pour descendre et elles sont complètement affligées.
Alors, comment vous la racontez, la petite histoire de cette dystopie, comment vous la racontez ?
Par un procès. Par le procès de la Sibylle, qui était la copine des déesses qui a foutu le dawa en France et qui se retrouve en 2062 bien punie au tribunal du Grand Paris parce qu'elle est responsable de... On l'accuse en tout cas d'être responsable et du Grand Blanc, qui est une sorte de sort d'amnésie qui a été jeté sur les Français et sur tout le pays pour qu'ils oublient les trois ans de règne féministes du Parti du Cercle, qui évidemment se sont passés en terreur parce qu'on a tellement été... brimer nous autres, qu'une fois qu'on nous donne le pouvoir, on nous éduque en pas, et bien évidemment on se venge et on égorge tout le monde. Mais bon voilà, derrière le grand guignol, il y a quand même surtout l'idée d'une vraie colère sociale de la place de la femme dans la société française.
Avec un vrai appel qui est fondé sur un vrai espoir, moi j'ai trouvé en tout cas la sororité.
Oui, pour moi c'est vraiment la seule clé de voûte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut toujours essayer de travailler sur le harcèlement et sur plein de trucs, si les filles entre elles ne sont pas solidaires, dans tous les milieux où elles se trouvent mises en contact les unes avec les autres, on ne peut pas gagner. Et je pense que vraiment, le plafond de verre, entre autres, le fameux plafond de verre, si on n'arrive pas à avoir une majorité de femmes qui le passent, c'est parce que celles qui marchent comme un catwalk sur le plafond de verre donnent des gros coups de talon aiguille pour empêcher les copines d'être au même niveau. Et c'est la différence, en fait, entre les sorcières qui sont dans la puissance et le partage et les femmes de pouvoir, bien entendu.
Alors, vous savez à quel point j'ai adoré votre roman et à quel point il m'a fait rire, surtout. Et évidemment, par là, on arrive à beaucoup de choses, effectivement. Notamment à passer enfin des messages à ceux qui ne sont pas convaincus au départ. Ce qui pour moi met vraiment votre roman à une place à part dans votre œuvre, parce qu'en fait, dans les autres, vous adressez à une minorité qui est déjà convaincue.
Exactement.
Par ce que vous disiez au départ. Et puis, quand j'ai refermé, mais quand même resté un grain de sable ou un caillou dans la chaussure, en fait. Parce que moi, j'ai un problème dans la littérature sur le fait que les choses sont tellement assises, par exemple, et sur le texte de la Bible, si on prend notre civilisation, et sur la mythologie, qui pour moi ont été des systèmes totalement écrits par les hommes, par exemple. Alors certes, vous déjouez, vous rejouez, vous tordez, vous en faites ce que vous voulez, mais est-ce qu'à faire de la fiction et de la science-fiction, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu envie de créer un modèle qui aurait échappé à ce reste c'est 2012 ans d'histoire et ce qui précède.
Non, ça sera pour un autre travail. Là, l'idée, c'était plutôt de montrer justement dans les mythes tous les endroits où on s'est fait, nous, femmes, dynamiter. C'est-à-dire que ce soit dans la création du monde où Gaïa se fait spolier par Jéhovah dans les textes, que ce soit le personnage de Lilith qui normalement est créé...
Qui nous a beaucoup obsédé auparavant.
Voilà, et qui est créé à l'égal d'Adam et qui se fait virer de l'Éden juste parce qu'elle revendique l'égalité. Et après, effectivement, tout plein de personnages historiques. Mais ce qui est marrant, c'est que même dans la réécriture des mythes, si on regarde chez Homère, la place des rats d'Estia chez Homère, c'est un truc de fou. En gros, ils bouffent à l'Olympe, elle leur sert à manger, mais elle ne participe à absolument aucune décision politique sur ce qui se passe. Alors qu'en fait, Estia siège à table. Mais lui, il l'a viré, il a foutu Arès, le dieu de la guerre, à la place. Et c'est par des petits trucs comme ça, où même dans la symbolique des poètes, on a perdu du terrain. Messaline, qui était loin d'être une putain mais qui était une vraie bacchante, se transforme en teneuse de bordel avec l'histoire, etc., etc. C'était aussi ça, une dépossession symbolique et historique qui se fait et dans notre histoire occidentale, parce que je connais pas les autres cultures non plus, mais et ça me paraissait aussi important de revenir sur le polythéisme aujourd'hui, dans la mesure où les monothéismes nous emmerdent, et qu'accessoirement, à l'époque des Grecs, oui, Héra avait son, et ses copines avaient des temples qui étaient aussi importants que ceux de Zeus et de leurs copains. Donc c'est aussi revenir sur une égalité de base.
Alors pour servir votre propos, vous avez donc utilisé ce procédé qui est mélanger le passé, le présent et un futur. Et puis, alors ce futur est très 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 probable parce que dans votre analyse de ce qui est notre présent, tout est là en fait. Et c'est là où je me demande si en vrai, dites-nous la vérité aujourd'hui, vous prenez de la cocaïne.
Mais non, j'ai arrêté la coke il y a hyper longtemps.
Comment
c'est mauvais pour bosser. Je fume des joints.
Comment avez-vous travaillé? Parce qu'en fait, tout y est quoi. De H&M, les Spice Girls, Internet, la politique, la religion, notre façon de consommer, notre façon d'être formaté, tout, absolument tout.
Ça a été 3 ans de travail, donc aussi 3 ans de beaucoup de déchets, mais aussi de beaucoup de prises de notes sur les pistes qu'il fallait mettre dedans. Et quand on parle de trucs concrets, de sororité par exemple, dans la consommation, moi je suis quelqu'un qui mange de la viande et qui porte des animaux morts en guise de manteau. Néanmoins, je pense qu'acheter du Madding Bangladesh en connaissance de cause et une attaque... est un crime contre les jeunes. Enfin, on sait qu'on porte du sang d'enfant, ce qui me paraît plus grave que des poils de lapin mort. Et c'est pareil que pour les trucs que j'expliquais sur le plafond de verre ou quoi. C'est des choses qui sont super concrètes dans notre quotidien, qui sont applicables au même titre qu'être sympa avec la copine d'à côté au lieu de ricaner dès qu'elle se prend une vanne par le patron. Enfin, je sais pas, ça me paraît juste. Mais après, pour ce qui est de l'univers, oui, je suis quelqu'un qui travaille avec la télé allumée. Donc même si je suis en train de me taper du Homer ou de relire des trucs plus sérieux, j'ai la voix de la télévision qui ça me met en résistance en fait. Moi, pour me concentrer, j'ai besoin d'avoir des agressions extérieures. On peut plus fumer dans les cafés, donc je travaille à la maison avec la télé. Et cette voix du merchandising qui est transposée dans le procès, où on peut acheter tout ce qui est montré à l'écran, y compris les chaussures de la greffière, c'est juste très actuel, vraiment très actuel. D'ailleurs, dans les développements internet pour les achats en ligne, le but est que dans pas très longtemps, quand on sera sur la page de Closer où on voit une ministre photographiée avec une légende sur ses ravissantes chaussures, on clique et on pourra les acheter, puisque c'est ça qu'ils essayent de développer. Donc, c'est juste un peu comme la série Black Mirror. Légèrement pousser un curseur, mais qui existe déjà. Sinon, c'est pas crédible.
Alors, si on parle un peu du parallèle que j'ai pu faire entre la Sibylle et puis qui vous êtes, vous, dans la société, à savoir un auteur, en fait...
Que personne n'écoute jamais non plus.
Bah si, moi un peu. on voit apparaître deux phénomènes, en fait. C'est-à-dire, dans la littérature dite générale, un mélange des genres. On a un Jablonka qui est un historien qui nous fait quasiment un roman époustouflant sur un fait divers qui est aussi un hommage aux femmes et à la violence. Enfin,
au Seuil aussi d'ailleurs, c'est une rentrée très féministe.
C'est ça. On a une Chiarello qui, à la contre-allée avec le tombeau de Pamela Sauvage, nous met en garde sur ce que peut devenir le futur. On trouve chez, comment elle s'appelle, le roman, c'est Avec joie et docilité, ça se passe dans le Grand Nord, c'est pareil en fait. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on en est à un point dans la littérature et dans l'histoire de la littérature où le dernier truc qui vous reste à faire, c'est nous mettre en garde, en fait?
J'ai vraiment l'impression qu'on a une... quand j'ai commencé il y a 16 ans, j'avais sincèrement l'impression d'une utilité de terrain, de quelque chose de politique réel. L'autofiction, pour moi, était vraiment une façon de travailler sur la subjectivité et de pousser tout le monde à se redresser. Maintenant, j'avoue que je pense que c'est pareil pour tout le monde. On est super emmerdés. C'est-à-dire que soit on se réapproprie de l'histoire très récente. C'est aussi une rentrée qui parle pas mal des attentats, des migrants, tout ça. Mais moi, je suis pas... Enfin, je pense que je serais pas... Je suis pas une bonne observatrice. Enfin, je veux dire, j'ai fait en sorte de me retrouver quand même dans une position un peu confortable et privilégiée existentiellement parce que j'ai fait mon trou pour me sauver. Et du coup, je vais pas faire semblant ou aller visiter de la jungle pour me donner du matériau et bonne conscience. Je serais pas à ma place. Donc moi, à ma place, c'est quoi? C'est mes trucs de savoir et de colère de fille et la mise en garde. Oui, il reste plus que ça. La dystopie, il reste plus que ça, parce que de toute façon, on est réellement, en plus là, on est fin septembre, le mai approche, on est vraiment dans une situation historique hyper flippante en vrai. Donc c'est difficile de pas en rire parce que la situation est désespérée, mais elle n'est pas grave. Et aussi de qu'est-ce qu'on va transmettre au lecteur, quoi. C'est difficile.
Et la Sibylle n'est pas la Pythie parce que la Sibylle est la seule à dire je, oui. Et parce qu'on est plutôt jeune ou bien?
Non, parce que aussi la Pythie, elle est fonctionnaire. Une Pythie, c'est quelqu'un qui travaille pour l'oracle de Delphes ou un oracle précis en pointant, quoi.
Elle dit pas je.
Mais elle dit ouais, non, elle dit pas je. La Sibylle, elle dit je, elle prévient et surtout elle est nomade. Donc elle va de lieu en lieu pour appeler ses sœurs au réveil.
Clé de l'homme, avant qu'on prenne un orage.
Ouais, qui m'a l'air assez historique aussi.
Sur la tête. Si vous ne couperez pas à la question Rock'n'Page, vous me donnez un titre de musique pour évoquer ce roman-là sans en parler.
L'homme serpent de Grand Blanc.
Voilà, c'était Chloé Delhomme au micro de Rock'n'Page, rencontrée lors des chapiteaux du livre qui se déroulaient à Béziers, au mois de septembre. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on vient d'évoquer ce superbe roman incroyable, vraiment très drôle, mais pas que. Un message résolument, un message féministe résolument passé sous la forme... du sourire, quoi, du sourire, mais du sourire musclé, quoi, celui qui interpelle, celui qui appelle. Ça s'appelle Les Sorcières de la République, c'est signé Chloé Delhomme, c'est sorti au Seuil dans la collection Fiction et Si. Je remercie Bruno à la technique, cette émission a donc été produite par Divergence FM. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, prenez bien soin de vous. Je vous laisse, ça c'est important, je vous laisse en compagnie de Grand Blond, qui a donc été choisi, vous l'avez entendu, par Chloé Delhomme pour illustrer Les Sorcières de la République. Allez, prenez bien soin de vous.